Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Merci de retour avec nous pour cet épisode et on vous aime vraiment beaucoup parce qu'on a bravé la tempête de neige, ben en fait les restants de la tempête de neige à Montréal pour record cet épisode-là aujourd'hui.
Je dirais plus Noémie a bravé parce qu'elle est gentiment venue à moi parce que moi, malheureusement, ma voiture n'est plus accessible. Pour vous donner une idée, les déneigeurs de la ville prenaient ma voiture en photo. Je suis devenue le mime de la ville de Montréal. Et pour ceux qui ne sont pas résidents de la ville de Montréal ou même au Québec, on a vécu la plus grande tempête des 127 dernières années.
J'ai lu quelque part qu'il y avait tombé plus de neige en quelques jours qu'il y en a tombé toute l'année passée. C'est quand même fou, là. Les bancs de neige sont plus hauts que moi, je sais que je suis pas très grande, là, mais quand même!
Non, c'est complètement fou, puis j'avais jamais vu la Jess Mobile ensevelie en entier comme ça, là. Comme si tu savais pas qu'il y avait une voiture en dessous, il n'y avait plus de voiture. Ma voiture était complètement ensevelie, j'ai jamais vu la Jess Mobile dans un état pareil.
Ça me fait penser au TikTok du monsieur qui était avec sa pelle pendant la tempête, puis il regarde les autos, puis on voit qu'il y a des autos en dessous, mais on voit pas l'auto, c'est juste la forme de la butte de neige. Puis le monsieur, tu le sais qu'il sait pas lequel, c'est son char. Puis il veut pas commencer à pelleter parce que what if qu'il pelle, puis finalement c'est le char du voisin qui est en train de déneiger. Ah, ça ou le TikTok de la déneigeuse qui passe avec la neige, puis il y a l'auto dans le mouton de neige. Puis la déneigeuse, elle fait juste déneiger l'auto avec, elle passe avec.
La théorie de plusieurs, c'est que le pauvre déneigeur a même pas vu qu'il y avait un auto en avant du tas de neige. Et ça, mesdames et messieurs, c'est les dangers de laisser votre voiture quand la petite pancarte orange est là. Quand la petite pancarte orange, tasse-toi. En cas de doute, ne te parque pas.
Ah ouais, là, ça nous a pris. On était 3 personnes pour me déneiger une place de parking aujourd'hui. Puis honnêtement, comme, c'est serré, là. Tu sais, j'ai refermé mon petit miroir. Puis j'espère que personne va me rentrer dedans. Puis sinon, ben, c'est les risques du métier. J'ai abandonné. Je suis stationnée, on fait l'épisode, c'est parfait pour moi, c'est ce que je voulais.
Bienvenue au show, Noémie. Merci d'avoir bravé la tempête et merci d'avoir fait une telle preuve d'amour à nos auditeurs.
Ça fait plaisir, puis merci à Baguette d'avoir déneigé. Bref, maintenant que tout ça est dit, allez nous suivre sur nos réseaux sociaux, s'il vous plaît, hein? Que tous nos efforts d'aujourd'hui soient récompensés, puis donnez-nous une note de 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, ça nous aiderait tellement beaucoup, puis c'est ça.
That's it, that's all basketball, s'il vous plaît!
S'il vous plaît!
Aujourd'hui, on va sauter directement dans le vif du sujet parce que vous l'avez vu sur le titre de l'épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode très différent parce qu'on se fait vraiment une petite conversation. Je vous amène dans ma vie, dans quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé dans mon entourage. Et on fait ça aujourd'hui plus en mode conversation pour peut-être sensibiliser ou outiller des gens, partager une histoire qui, on jugeait, valait la peine d'être partagée. Alors voilà. On n'aura pas d'organisme à présenter non plus aujourd'hui, ni de cocktail à consommer. Par contre, décidément, l'organisme dont on veut faire la promotion avec cet épisode-là, c'est SOS Violence Conjugale. On en a parlé dans l'épisode précédent, on a décrit un peu les missions de cet organisme-là. Et moi, je vais juste rajouter que c'est un organisme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé mon ami dont il va être question dans l'épisode aujourd'hui, lorsque ça a été le temps de le faire. Alors, merci encore pour tout ce que vous faites, SOS Violence Conjugale, vous êtes vraiment des héros.
Je vais renchérir en disant merci SOS Violence Conjugale.
Donc, vous le savez, on est dans la saison de l'amour et malheureusement, l'amour, ça peut des fois être un prétexte pour détruire quelqu'un, pour le manipuler, pour en profiter. Et là, on veut pas parler ici d'une relation toxique dans laquelle les deux parties sont problématiques. On parle vraiment d'un problème qui est grandissant, malheureusement, dans notre société. On parle de la violence conjugale, qui est un terme qui est encore un peu tabou, un terme qui est encore un peu méconnu et dont les signes sont franchement en zone grise. C'est vraiment difficile de déterminer si on vit de la violence conjugale ou si on n'est tout simplement pas un bon match pour la personne avec qui on est. Alors aujourd'hui, de prime abord, je vais vous faire une petite description de ce que c'est la violence conjugale et toutes les informations ont été tirées de la page de SOS Violence Conjugale. Et par la suite, je vais vous raconter l'histoire et je vais vous raconter aussi comment j'ai accompagné ma meilleure amie parce que je pense que c'est ça le but de l'épisode aujourd'hui. C'était de démontrer que même en tant que que tierce partie, même en tant que personne qui ne fait pas partie du couple, vous êtes capable de changer les choses et vous êtes capable d'aider. En fait, vous êtes les meilleures personnes pour aider une amie, un ami à déceler ce qu'il vit, à mettre un mot sur les émotions qu'il ressent. Et il y a plusieurs petites manières avec lesquelles je m'y suis prise pour conscientiser ma meilleure amie et l'aider à sortir de cette relation-là. Alors voilà, je pense qu'on va tout de suite sauter dans le vif du sujet. Petit avertissement, aujourd'hui, il y a des détails qui vont être laissés de côté tout simplement parce que on ne veut pas avoir de représailles judiciaires, on voudrait pas que l'abuseur en question d'aujourd'hui revienne et nous accuse d'avoir fait de la diffamation parce qu'on s'entend que pour tous les abuseurs, on exagère toujours et on dit toujours des gros mensonges. Alors, c'est le genre de personnes qui ne vont pas hésiter avant de te faire des représailles judiciaires et pour ce fait, on va camoufler le nom de mon amie, on va l'appeler Eliane. J'ai aucune amie qui s'appelle Eliane, fait que ça va être elle aujourd'hui, Eliane. Et on veut juste rappeler que oui, aujourd'hui, je vais parler d'un abuseur au masculin, mais la violence conjugale, ça n'a pas de visage, pas de sexe, pas de genre, et surtout, surtout, la violence conjugale, c'est tout, sauf de l'amour.
Aussi, un autre petit détail qui est important de préciser, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux. Name it, on est juste des personnes qui ont vécu de la violence conjugale, que ce soit de près ou de loin. Tu sais, Jess a dit tantôt, c'est pas sa vie à elle, mais tu sais, c'était dans son entourage, là. Fait que c'est comment elle l'a vécu en tant que Jess. Et moi aussi, comment j'ai vécu certaines choses en tant que moi, Noémie, et non en tant que professionnelle. Donc, si jamais il y a des situations que vous vivez, tu sais, prenez pas tout ce qu'on dit aujourd'hui comme à la lettre, là. Il y a des places qui sont là pour vous aider, il y a des organismes qui sont là pour vous aider, puis il y a des professionnels aussi qui sont là pour vous aider. Qu'on voulait juste mettre ça de... On voulait juste le dire avant de continuer dans l'épisode.
Totalement, et d'ailleurs, dans la description de l'épisode d'aujourd'hui, vous allez avoir tous les liens nécessaires pour pouvoir aller chercher de l'aide si jamais vous en avez besoin. On va également rajouter quelques liens pour l'Europe, malgré le fait qu'on se connaisse un peu moins. On va essayer de laisser tous les outils nécessaires dans la barre d'information de cet épisode. Et on le dit, on le redit, si jamais vous avez envie de parler, de nous donner un témoignage ou tout simplement d'extérioriser ce que vous vivez, n'hésitez jamais à venir nous parler dans nos DMs. Par contre, on le redit, on va toujours vous diriger vers les professionnels, vers les gens qui peuvent vous aider parce que, comme Noémie l'a mentionné, on est loin d'être des professionnels malgré le fait qu'on ait envie d'aider, on ait envie de propager ce genre de message-là. Ça ne veut pas dire que vous devez prendre, comme Noémie l'a dit, à la lettre tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui parce qu'il s'agit vraiment d'une expérience personnelle, d'un témoignage personnel. Et donc, dans la même ordre d'idée, je vous demanderais sincèrement de ne pas juger les actes d'Eliane. Jamais. En fait, on rectifie. Je rembobine et je dis ne jugeons jamais une victime, parce qu'on sait jamais comment on se sentirait dans cette position-là. Alors l'épisode d'aujourd'hui est vraiment pas en mode moralisateur, c'est vraiment plus en mode partage. Je vous donne une petite bribe de ma personne, une bribe de la personne qu'est ma meilleure amie. Et voilà, donc je vous demanderai d'accueillir ce témoignage avec respect et surtout de nous rejoindre dans nos DM si jamais vous avez besoin de parler à votre tour. On l'a déjà dit, surtout dans l'épisode de la semaine passée, mais la première chose à prendre en compte quand on parle de violence conjugale, c'est d'établir que c'est quelque chose qui est vraiment insidieux et que c'est vraiment difficile de le percevoir. Ouvre la citation. Peu importe sa forme, la violence conjugale est souvent très difficile à identifier puisqu'elle se camoufle sous une grande variété de masques qui se fondent dans le décor de la relation amoureuse. Fin de la citation. À noter que toutes les informations que je vais vous lire aujourd'hui sous forme de citation, ça a été tiré du site SOS Violence Conjugale, dont le lien, on le répète, est disponible dans la description de l'épisode. Donc, comme on l'a dit, les abuseurs, ils peuvent s'y prendre de plusieurs manières, tout aussi sournoises les unes que les autres, afin d'établir un contexte de violence conjugale dans une relation. La chose qui est quasi universelle dans toute relation de violence conjugale, c'est les débuts tout rose. À la base, l'abuseur se présente comme une espèce de sauveur, un partenaire idéal, ce qui encourage malheureusement souvent la victime à s'abandonner dans la relation, à tomber en amour rapidement et à s'ouvrir plus facilement. Et la descente aux enfers commence, mais elle commence toujours tellement doucement, de manière à ce que la victime se demande si elle est le problème. Comme écrit sur le site de SOS Violence Conjugale, il y a plusieurs manières d'établir l'espèce de position de force dans laquelle l'abuseur va éventuellement se ramasser. La première, c'est le pouvoir et le contrôle coercitif. Qu'est-ce que c'est ça? Dans le fond, c'est imposer sa volonté, prendre des décisions unilatéralement, imposer sa présence, ses amis, ses activités, imposer certaines tâches, responsabilités, des règles, contrôler le quotidien, punir la victime lorsqu'elle ne se conforme pas aux exigences. Et par punition, on parle pas nécessairement de punition physique. Là, on peut parler de représailles verbales, on peut parler d'insultes, on peut parler tout simplement aussi d'isoler la victime et de lui faire sentir comme si elle était constamment le problème dans toutes ses relations, ce qui va éventuellement mener à de la violence émotionnelle. La violence émotionnelle, c'est le principe de créer une souffrance intentionnellement, de faire peur, de faire de la peine, même des fois de faire sursauter. C'est de la manipulation émotive et je pense que ça, malheureusement, c'est l'une des choses qui est les plus difficiles à prouver dans tous les cas de relations toxiques, donc que ce soit au travail, avec des amis, avec un partenaire, c'est très difficile de démontrer où la violence émotive a commencé et où elle s'est arrêtée. Malheureusement, ça va souvent en terminer avec de la violence psychologique et ça aussi, ça va découler avec de la violence physique. C'est une toile d'araignée qui est tissée tellement lentement, tellement sournoisement, mais tellement habilement par les abuseurs que la plupart du temps, la personne qui va recevoir ce genre de violence-là va elle-même se blâmer et va se mettre à se dire que c'est de sa faute, qu'elle aurait pu faire mieux et que si elle n'avait pas agi de telle et telle façon, elle n'aurait pas eu telle et telle conséquences, représailles. Donc, c'est comme un cercle sans fin, la violence conjugale, parce que l'abuseur a tellement établi un grand pouvoir sur toi que t'es pas capable de voir clair dans tout ça. C'est pour ça que l'important, c'est l'entourage. Et malheureusement, une autre des choses que les abuseurs vont souvent faire, comme on l'a dit au début, c'est d'isoler la victime. Donc, lui faire croire que ses amis ne sont pas là pour elle, lui faire croire que ses amis, c'est des mauvaises personnes, ou tout simplement exiger qu'elle passe le plus clair de son temps en votre compagnie. Et ça peut malheureusement, des fois, se découler même avec les relations familiales. Donc, la plupart du temps, les parents, la famille, l'entourage n'apprécient pas nécessairement l'abuseur parce que, ben, elles ne sont pas dans la relation, elles voient plus clair que la personne qui est manipulée et en amour. Et donc, ça fait une espèce de cercle vicieux dans lequel la personne pense que tout le monde est contre son partenaire et donc va s'isoler avec lui. Il y a plusieurs autres types de violences que les abuseurs vont employer pour établir l'espèce de puissance, de dominance envers leurs victimes. Il y a la violence économique, par exemple, faire des commentaires sur les moyens financiers de un ou juste tout prendre en charge les finances pour aliéner un peu l'autre personne dans le couple qui va se sentir dépendante de son abuseur. Il y a de la violence par isolement, il y a de la violence judiciaire, il y a de la violence sexuelle, il y a de la cyberviolence. Je veux dire, on pourrait continuer encore longtemps et très longtemps. Comme on l'a dit, on n'est pas des professionnels, alors on n'est pas ici pour vous faire un cours sur la violence conjugale ni sur comment la déceler, mais on va passer tout de suite à l'aspect plus témoignage, plus conversation, et je vais vous raconter l'histoire de ma meilleure amie. Eliane, c'est littéralement un soleil, et là, je ne pèse pas mes mots. Eliane, c'est le meilleur public que tu peux avoir dans la vie. C'est une personne positive, joyeuse, qui va toujours rire fort à toutes tes blagues, même quand elles sont plates. Oui, je te le dis, même quand elles sont plates, c'est ce genre de fille-là. Elle est toujours partante pour de nouvelles aventures, elle se donne tellement pour les gens qu'elle aime, elle est présente et surtout c'est une femme très intelligente. Elle est ingénieure, elle a une belle carrière, elle vient d'une bonne famille qui l'a bien élevée et ça n'explique pas le fait d'être une candidate parfaite pour la violence conjugale parce qu'il n'y en a pas de candidate parfaite. On est tous sujets à être abusés émotivement ou à être dans une relation de violence conjugale à n'importe quel moment de notre vie. Et il faut arrêter en tant que société de voir les victimes de violence conjugale comme des personnes faibles d'esprit parce qu'elles ne le sont pas.
Moi, je trouve ça complètement ridicule que les gens, justement, pensent que les personnes victimes de violence conjugale sont faibles parce que s'il y avait un profil type précis pour être victime de violence conjugale, si je peux formuler ça comme ça, bien... Ça changerait beaucoup les choses parce que là, c'est des gens qui sont victimes de violences conjugales. Ils viennent de partout dans le monde, de plein de démographies différentes, de plein de cultures différentes, de plein de vies familiales différentes. Donc, ça l'annule. Moi, je trouve que ça l'annule complètement l'excuse de « Ah, mais c'est des personnes faibles. » Ben non, parce que C'est n'importe qui, littéralement, là, qui peut être victime de violences conjugales.
Totalement. Et j'avais vu dernièrement un témoignage, j'oublie malheureusement la personne qui offrait ce témoignage-là, mais c'est quelqu'un qui est dans le domaine de l'influence, donc une créatrice de contenu, qui mentionnait que pour elle, ce qu'elle avait remarqué, c'est qu'elle était facile à tomber dans le panneau de la violence conjugale parce que c'était une femme forte et que c'était souvent ce que les hommes recherchaient parce que pour eux, c'est un grand sentiment de pouvoir de voir une femme forte, de voir une lumière briller et de l'éteindre petit peu par petit peu. Malheureusement, c'est exactement ça que je soupçonne qu'il soit arrivé avec Eliane. Moi, je pense que son ex l'a vu. Il s'est dit, cette femme-là, elle est belle, elle est intelligente et qu'au fond de lui, il savait qu'il ne méritait pas toute cette grandeur. Alors, il a décidé de la détruire par petit feu. La première fois que j'ai rencontré ce copain-là, justement, on est allé faire un petit déjeuner à quatre, tout est beau. On sort de là, ma conjointe et moi, et on se dit « Wow! Eliane a vraiment trouvé quelqu'un de bien pour elle. » Donc, n'allez pas penser que les abuseurs, ce sont des gens que tu peux déceler rapidement. Moi aussi, je suis tombée dans le panneau. Moi aussi, je me suis dit « Ce gars-là aime vraiment Eliane. C'est un bon gars pour elle. » Et Noémie peut en témoigner parce que à quelques reprises, on a été dans des circonstances dans lesquelles on était tous ensemble et les deux, on disait à mon amie Eliane à quel point son amoureux avait l'air de l'aimer, il la regardait avec des étoiles dans les yeux, on ne pouvait pas nier ça.
Non, c'est vrai, je me rappelle la première fois qu'on l'a rencontré, je me disais waouh, il est en amour par-dessus la tête avec elle, puis il était tellement gentil avec elle. On a même essayé de faire quelque chose les trois couples ensemble dans le temps que j'étais avec mon ex, puis ça l'a jamais donné finalement. Mais c'est ça, je me disais, tu sais, il n'y avait aucun signe avant-coureur j'aurais pu me dire, mais semble qu'il y a quelque chose qui cloche.
Ben pareil en tant qu'ami et surtout pareil en tant que personne dans la relation. Donc au début, tout est beau, tout est rose, la personne se présente un peu comme un preux chevalier qui vient te sauver de toutes tes relations déchues du passé. C'est exactement comme ça qu'Eliane a vu son chum au début. C'était une personne attentionnée, c'était une personne qui prenait le temps de lui souligner à quel point elle était belle, elle était forte, à quel point il l'aimait. Il y a quelque chose que je veux établir ici. Je ne mentionnerai pas quel était l'emploi de cet homme-là. Par contre, c'est un emploi beaucoup moins prestigieux dans la société que l'emploi d'ingénieur. Je trouve que c'est quand même important parce qu'on va y revenir tout à l'heure parce qu'on parlait tantôt de violence économique. Eh bien, pour l'espèce de cercle qui a été généré dans cette relation-là, c'était plus sur la narrative de... il essayait de se remonter en essayant de descendre un peu l'importance qu'avait mon ami sur le marché et tout simplement avec son employeur, là. La première fois que j'ai compris que mon ami était dans une relation... de prime abord, toxique. Je me suis pas dit qu'elle était dans une situation de violence conjugale dès le départ, comme on l'a dit. C'est difficile à déceler. C'est la première fois qu'elle m'a mentionné qu'ils étaient séparés et qu'ils étaient revenus ensemble quelques jours plus tard. Donc, on se parle, elle me dit « c'est terminé entre moi et cet homme-là ». Elle me mentionne qu'il lui a mentionné à quelques reprises qu'elle n'était pas assez bonne pour lui, qu'elle ne faisait pas assez d'efforts, que c'était lui qui donnait tout son jus dans la relation, ce qui aurait pu être vrai. Dans des relations, des fois, il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre. Alors elle a laissé l'homme partir et lorsqu'il est revenu, elle l'a repris. Alors moi, je me suis juste dit, en tant qu'amie, va falloir surveiller ça, parce qu'en tant qu'amie, tu ne veux pas que ton ami... Bon, excusez, là, je perds mes mots, mais en tant que personne proche de quelqu'un, tu veux pas voir quelqu'un que t'aimes depuis nombreuses années être dans une relation on and off, comme on dit dans le jargon, donc une relation qui se termine, qui se reprend, qui se termine, qui se reprend, c'est une ambiance qui est très toxique, même si ce n'est pas de la violence conjugale, ça reste que ce n'est pas une ambiance idéale pour bâtir un avenir, ce qui est exactement la raison pour laquelle les deux étaient en couple. Je veux dire, on est à 30 ans, on ne se date plus juste pour le faire, on se date parce qu'on veut bâtir un avenir ensemble.
Effectivement, puis pas généralement, quand tu es dans une relation d'adulte, l'autre est censé sortir le meilleur de toi et vice-versa. Ça veut pas dire que ça va être parfait tout le temps, loin de là. Mais vous êtes censé être une équipe, puis comme je viens de dire, de faire sortir la meilleure version de vous-même quand vous êtes avec cette personne-là. Donc si une de vos amies, vous voyez qu'elle est dans une relation on and off comme ça, bien c'est rare que ça va être une relation qui va pas être toxique justement parce que les personnes qui sont généralement en relation on and off, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Puis en tout cas, moi, j'ai jamais vu une relation d'ex qui arrêtait pas de revenir ensemble, qui était pas toxique, puis qui était stable. C'est jamais arrivé, puis je pense que personne n'a déjà vu ça.
Complètement, puis surtout quand la relation aussi commence à peser lourd sur toute ta vie. Donc, si jamais t'as plus le temps pour tes amis parce que ton partenaire te prend tout le temps ou les chicanes que vous avez en couple prend tout ton jus, et quand ça commence à impacter même ta motivation à aller au travail, ta motivation à aller au gym, à prendre soin de toi, c'est un signe avant-coureur qu'il y a quelque chose qui marche pas, en fait.
J'aurais pas mieux dit.
Pour en venir à l'histoire d'Éliane, un jour, Éliane et moi, on est en train de se parler, et là, elle m'avoue qu'elle ne m'a pas tout dit. Déjà là, c'est un signe aussi. On vit dans une espèce de société où on veut pas démoniser notre partenaire, là, surtout entre amis ou entre famille. Des fois, même moi, là, de mon côté, des fois, j'ai vécu des situations avec ma conjointe que je n'ai pas nécessairement rapportées à Noémie parce que j'ai pas envie de ternir ni mon image, ni la sienne. Des fois, on est fatigué, on s'obstine pour rien. C'est pas nécessaire de rapporter toutes les moindres petites embûches que tu vis dans ton couple. Par contre, si vous vivez des choses vraiment difficiles, c'est important de s'ouvrir, c'est important d'en parler, et non, ça ne va pas faire en sorte que votre ami ou votre famille va juste moins aimer votre partenaire. Au contraire, moi je pense que si vos amis, votre famille voient à quel point les deux vous faites des efforts mutuels, ça peut juste les convaincre que vous êtes dans la bonne relation, donc n'hésitez jamais à vous ouvrir. Je pense que là, ça a été le premier signe qu'il y avait une instance de violence conjugale qui commençait à s'instaurer parce qu'elle m'a avoué qu'elle avait peur de me rapporter ce qui s'était passé.
Puis aussi, vous n'avez pas à être gêné, vous n'avez pas à ressentir une certaine honte parce que vous vivez une relation toxique ou une certaine violence, que ce soit violence physique ou psychologique. Souvent, j'ai souvent entendu des gens dire « Ah, ben tu sais, je suis gênée parce que j'ai laissé l'autre personne me faire ça », mais absolument pas. La honte, c'est pas... Tu sais, on l'a vu avec le cas de Gisèle Pellicot, la honte, elle change de camp. C'est pas à vous, la victime, d'avoir la honte, c'est à votre abuseur de l'avoir.
Complètement. Puis, justement, la honte, comme tu disais, elle l'avait parce que l'événement dont je fais mention, là, en fait, c'était des paroles. Donc, ça a commencé avec la violence verbale. Il l'insultait, il diminuait sa personne, lui disait que c'était une personne noire, négative, qui drainait de l'énergie, quand, sincèrement, je ne dis pas ça parce que c'est mon ami, c'est tout le contraire. C'est exactement le contraire du personnage qu'est Éliane.
Ah non, je peux confirmer, c'est juste un rayon de soleil, c'est juste de l'énergie à l'état pur, c'est vraiment pas c'est pas un détraqueur là, comme Harry Potter, c'est tout le contraire de ça.
Non, moi je la comparerais plus à un chargeur de iPhone format humain, genre. Elle charge ta batterie quand t'as voix, puis elle la draine pas. Mais son ex, il lui faisait croire tout le contraire. Alors elle m'a rapporté la violence verbale dont elle a été victime, et bon, on va pas se mentir, elle lui a rendu l'appareil au début. Donc mon premier constat, ça n'a pas été de dire « elle se fait manipuler, elle est dans une relation de violence conjugale », mon premier réflexe a été de me dire « mon ami est dans une relation qui ne lui convient pas ». Par la suite, au fil des discussions, elle m'a mentionné qu'elle avait ressenti le besoin d'enregistrer une conversation. Ça a été un premier signe qui m'a fait un petit pincement au cœur, parce que je me suis dit « hey, je me suis déjà chicanée avec mon épouse, là. jamais j'ai eu le besoin d'enregistrer ». Habituellement, quand t'enregistres quelque chose, c'est pour peut-être éventuellement prouver que t'as été victime. Elle enregistrait tout simplement pour pouvoir le faire réécouter à son conjoint parce qu'il n'assumait pas les paroles qu'il lui lançait en plein visage et qui étaient franchement vraiment violentes. Là, on parle de « t'es crissement négative, t'es vraiment drainante, c'est vraiment difficile d'être avec toi, il y a aucun autre gars qui accepterait d'être avec quelqu'un d'aussi pire que toi ». Là, on l'établit tout de suite, là. Ce n'est pas le genre de paroles que quelqu'un qui vous aime tiendrait.
Non, je trouve ça tellement triste. Tu sais, qu'elle ait ressenti le besoin d'enregistrer, parce que c'est là que tu vois à quel point que, tu sais, la relation, là, ça va pas. C'est, si tu sens le besoin d'enregistrer, dans ma tête, c'est déjà de la relation, d'une violence conjugale. C'est plus que toxique. C'est quand tu crains un peu, pas pour ta sécurité, mais au moins pour ta personne, parce que là, lui, le gars, ce qu'il faisait dans la situation, c'était, encore une fois, de la manipulation mentale. Puis là, t'es tellement plus sûr de toi, t'es tellement tout mêlé dans ta propre tête que tu sens le besoin d'enregistrer pour te protéger. C'est fou, là!
Non, vraiment, ça m'a 100% mis la puce à l'oreille à ce moment-là. Et une autre chose aussi qui s'est rajoutée dans le panier, c'est qu'au fil des conversations, elle leur relation on and off a continué, là. Donc, ils se sont laissés. Il lui a promis, pour pouvoir retourner ensemble, qu'il allait suivre des séances de thérapie. Suite de quoi, après la première, il est sorti de là en disant « La thérapeute a rien à m'apprendre, je suis plus intelligente qu'elle, puis ça marchera pas comme ça. » Donc, déjà là, les cloches sonnent.
Oui, la thérapie, vous en avez besoin, puis il y a pas personne de plus intelligent sur la Terre que les thérapeutes, là. Voyons donc, là, que de se dire « J'ai pas besoin de thérapie. » Je dis pas que les thérapeutes, c'est les plus intelligents sur la Terre, mais comme, on a tous besoin de thérapie. Puis même quand ça va bien, ça veut pas dire qu'il y a quelque chose de pas correct avec nous. Fait que si quelqu'un vous dit « je pète plus haut que le trou, je suis meilleur que le thérapeute », courez.
Non, 100%. Moi, j'ai toujours dit que la santé mentale, c'est comme un peu la santé financière. Faut pas que t'en prennes soin quand ça va mal. Faut que t'en prennes soin tout le temps.
Oui, ma psychologue m'avait dit ça l'année passée aussi. Puis j'étais là « effectivement, c'est vrai. » Ça m'a fait réaliser bien des choses. Oui,
on vit aussi dans une société qui enlève un peu les tabous entourés avec la thérapie. Moi, je pense que ça démontre une force puis une ouverture d'esprit plutôt qu'un aveu de faiblesse d'aller consulter une thérapeute. Ou un thérapeute. Donc, pour en revenir à Eliane est revenue avec son ex sous la promesse de suivre une thérapie de couple qu'il n'a pas voulu suivre. Et s'ensuit d'autres enregistrements, d'autres fois où il se chicane et où il la menace constamment de quitter la relation. Alors, à la moindre embûche, il lui disait « Je te laisse, t'es trop mauvaise pour moi, t'es pas une bonne personne, c'est difficile d'être avec toi. » Donc, déjà là, on peut s'entendre que c'est tout sauf sain. Je pense que l'enregistrement qui m'a le plus marqué, c'est une fois où il s'est rendu chez elle et où elle lui demandait à maintes et maintes reprises dans l'enregistrement de quitter le périmètre, de la laisser tranquille. Elle en avait assez vu, elle en avait assez entendu. Et dans l'enregistrement, il a procédé à vider son réfrigérateur. Il est parti avec le contenu de son réfrigérateur.
À quel point faut que tu sois, je m'excuse, mais faut que tu sois un crise de cave, comme... Voyons donc que tu vas, tu sais... En plus, elle aurait juste pu appeler la police. Je dis pas qu'elle l'a pas fait puis elle aurait dû, c'est pas ça que je dis, mais même si t'as acheté 3-4 tomates puis un pot de mayonnaise puis que tu l'as mis dans le frigo de la personne qui dit de t'en aller, il faut juste que tu t'en ailles. Là, comment on dit ça en français que t'es plus sur... comment on dit ça, trespassing déjà?
Intrusion, entrée par effraction. C'est plus légal d'être là, là.
Bref, vous comprenez ce qu'on veut dire. Faut juste que tu t'en ailles. Fait que le fait que lui... Il se pense tellement comme au-dessus de tout qu'il va vider le frigo avant de s'en aller. C'est pas ça l'important en ce moment. En ce moment, t'as pas le droit d'être là, va-t'en. La personne te dit qu'elle est pas à l'aise, qu'elle est pas bien, puis toi, tu vas vider le frigo. Ça démontre juste à quel point cette personne-là est pas bien dans sa tête, puis elle est pas stable, selon moi.
Non, puis en plus, il fait pas juste vider le frigo en silence, en mode « j'ai acheté 2 tomates, je les ramène chez nous ». Il vide le frigo bruyamment en lui hurlant dessus à quel point c'est une fille difficile à vivre, impossible, qu'elle n'ira nulle part dans la vie, qu'elle ne se retrouvera jamais de conjoint. Et en parallèle avec ça, il lui met sur le dos le fait qu'ils n'ont plus de rapport sexuel. Parce qu'elle ne se sent pas à l'aise d'en avoir, étant donné qu'il se chicane constamment, et qu'on s'entend que pour avoir des relations sexuelles le fun, il faut que la relation soit le fun. Donc, il lui mettait sur le dos le fait qu'elle ne lui faisait plus de fellation, tout en vidant son réfrigérateur et en lui hurlant à la tête qu'elle n'a pas d'avenir, que personne ne va vouloir endurer sa personne. Je veux dire, si vous n'êtes pas d'accord avec nous et que vous trouvez que c'est des comportements normaux, je vous inviterais peut-être à faire un tour sur le site de violence conjugale.
Puis vous êtes les candidats idéaux pour aller en thérapie.
Un autre événement qu'elle m'a rapporté, c'est qu'une fois, ils étaient en train de se chicaner et qu'il l'a violemment agrippé par les bras avant de la jeter de toutes ses forces sur son divan. Et son excuse à lui, c'était que c'était un divan, donc c'était quelque chose de mou, alors ce n'était pas grave. Je vais l'établir ici tout de suite. Si quelqu'un lève la main sur vous pendant une chicane, dans le but de vous faire peur ou dans le but de vous dominer ou de gagner l'argument, c'est de la violence conjugale qui est en train de devenir de la violence physique à part de ça.
Oui, on l'a déjà dit souvent sur le podcast, la violence conjugale, c'est pas juste physique, puis la violence physique, c'est pas juste une claque d'en face. Il y a plusieurs étapes à ça, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs formes. Donc, ça prend pas justement une claque d'en face pour que ce soit de la violence conjugale physique, ça peut être beaucoup d'autres choses avant ça, dont l'événement que tu viens juste de raconter, Jess.
Complètement. Puis en parallèle aussi, bon, à chaque fois qu'elle lui demandait de quitter le périmètre de sa propriété, il ne le faisait pas. Donc, il y a aussi le fait qu'il lui enlevait un peu sa sécurité de son chez-elle à elle. Parce que, par exemple, ils se sont laissés, elle revient du travail, il est là, il l'attend, il ne s'en va pas tant qu'ils ne sont pas revenus ensemble. Ça aussi, c'est de la violence émotive. C'est une des pires violences, je pense, que tu peux faire, d'enlever la sécurité de son chez-soi à quelqu'un. C'est exactement ça qu'il lui a fait. Et en plus, il a ajouté l'insulte à l'injure en volant le contenu de son réfrigérateur en acceptant de s'en aller. Comme, oui, je vais m'en aller, mais je vais m'en aller avec une partie de l'appartement aussi. Genre, c'est tellement tordu. Un autre élément qui s'est rajouté dans ma pile de ma meilleure amie dans une situation de violence conjugale, c'est qu'elle m'a mentionné que j'étais la seule personne à qui elle racontait tout, parce qu'elle ne se sentait pas jugée quand je lui parlais. Et là, on va revenir de comment j'accueillais ces témoignages, parce que de l'autre côté de l'écran, je bouillais mes bonnes chums de filles, mais ce n'est pas comme ça que je lui ai partagé mes ressentis. Et là, j'essaie vraiment pas de mettre de pointer le doigt envers aucune autre de ses amies, juste qu'elle m'a mentionné qu'elle se sentait en sécurité à cause de l'approche que j'ai utilisée. Et il y a d'autres de ses amies qui ont utilisé l'approche « je te rentre dans le mur et je te dis que faut que tu quittes ce gars-là ». Malheureusement, des fois, c'est pas l'approche à suivre, puis j'essaie vraiment pas de me mettre sur un piédestal en mode c'était mon approche qui était la meilleure, c'est juste que pour elle, c'est ce qui a fonctionné. On en a parlé tout à l'heure, les abuseurs vont souvent tenter d'isoler la personne, alors c'est exactement ce qui est en train d'arriver pour Eliane. Elle n'était plus capable de témoigner de ce qu'elle vivait avec certaines de ses amies, elle n'a même jamais osé en parler à ses parents, parce qu'on le sait, les parents, c'est protecteur, et elle avait peut-être une petite idée derrière la tête que c'était pas normal ce qu'elle vivait. Je pense qu'elle était juste pas encore capable de mettre des mots dessus, parce que quand tu passes ta vie à te faire manipuler mentalement par ton partenaire, c'est difficile de te rappeler que c'est pas toi le problème.
Ah, puis ça démontre tellement c'est quoi justement l'isolation quand quelqu'un est dans une instance de violence conjugale. Tu sais, là, ses amis voulaient juste la protéger, tu sais, c'était juste, ça naît d'une place d'amour, ils voulaient la protéger, puis essayer de la faire réaliser dans quelle situation qu'elle était, puis ça l'a fait en sorte, malheureusement, qu'elle s'est isolée d'eux, puis ça s'est rapproché du gars. À contre-mesure, c'est ça que ça l'a donné, puis je trouve que, tu sais, c'est tellement triste, là, parce que c'est ça qu'ils veulent, eux, les abuseurs, puis des fois, on veut bien faire, puis c'est pour ça qu'il faut justement en parler, comme dans l'épisode comme aujourd'hui. Ben, généralement, si on prend l'approche « je te rentre dedans, t'es dans une relation abusive », c'est assez rare que ça va fonctionner avec la victime. Faut vraiment leur donner comme un espace où ils se sentent en sécurité pour partager avec vous comme qu'elle se sentait en sécurité avec toi, Jess.
Oui, c'est exactement ça, puis je veux juste renchérir encore une fois, c'est vraiment pas la faute des autres amis, puis tu sais, elle s'est pas nécessairement isolée de manière physique, elle allait quand même les voir, elle faisait quand même des activités avec eux, c'est juste qu'elle omettait probablement quelques détails. Je sais qu'il y a d'autres amis à qui elle a partagé les audios, par exemple, avec qui elle a été parlée, donc heureusement, il n'y avait pas enlevé toute cette partie-là d'elle, mais elle m'a mentionné à plusieurs reprises que l'approche que j'ai eue avec elle a été l'approche qui a fonctionné. Donc, il a essayé de toutes les manières de l'isoler et ça a un peu fonctionné parce qu'elle n'a pas eu le réflexe d'aller partager d'autres détails ou d'écrire, par exemple, à tous les jours les suivis à d'autres amis. Mais il y a aussi une notion qui est importante, c'est que je lui demandais à tous les jours comment ça allait, comment ça s'était passé. Je la textais le matin, je la textais le soir, je la textais toute la journée pour savoir quels étaient les événements du jour, ce qui, honnêtement, c'est assez difficile à faire dans la vie de tous les jours quand tu travailles 40 heures. Donc, encore une fois, on ne tient absolument pas rigueur à toutes les autres personnes qui étaient dans son entourage et on n'essaye pas pantoute de me mettre sur un piédestal. Donc, j'ai survolé un peu plusieurs événements qui se sont produits. Donc, leur relation se termine constamment, ils reviennent ensemble. Et ça aussi, c'est une des autres manières qui peut être utilisée par les abuseurs pour vous dissuader de partager ce qui se passe avec vos amis. Parce que vos amis, à un moment donné, ils vont se tanner de vous entendre dire « je suis revenu ». Et là, ça va créer l'espèce de sentiment contraire où la victime a honte d'être retournée dans la relation. Elle a honte de se laisser traiter comme ça, mais malheureusement, elle est tellement prise dans un engrenage profond qu'elle n'est juste pas capable de s'en sortir. Et on rappelle, ce sont d'excellents, d'excellent manipulateur et je peux pas compter le nombre de fois où ce gars-là est revenu en rampant, en lui disant qu'il s'excusait, qu'il allait finalement suivre la thérapie, qu'il voulait être un homme meilleur. Donc, les secondes où Eliane a décidé de couper les ponts, il était toujours là avec un contre-argument et malheureusement, sont vraiment bons pour contre-argumenter. Fast forward, donc on avance jusqu'à l'événement clé. En fait, ça faisait des mois et des mois que on se parlait à tous les jours et un élément qui est vraiment venu me chercher et que ça a été là que j'ai un peu tombé en mode « il faut faire quelque chose et c'est grave », c'est « je travaille dans les médias, je l'ai déjà dit, et je travaille sur le corps de travail du matin ». Donc, il est quoi, 5h le matin, et on reçoit une nouvelle comme quoi qu'il y a eu un féminicide dans la ville où elle réside, et j'ai passé les prochaines 2 heures en état de stress, de choc. J'étais persuadée que la victime pouvait être mon amie parce qu'elle était dans les mêmes âges, c'était dans le même quartier. Alors ça, quand elle m'a répondu le matin, quand elle s'est réveillée, elle m'a texté, j'ai compris que c'était vraiment, vraiment important de prendre action parce que c'est pas normal que tu te demandes si c'est ton amie qui s'est fait assassiner par son conjoint.
Non, ça a tellement dû être un 2 heures atroce, de la torture, puis je pense que ça a été un bon moment justement pour toi de faire comme « ok, il faut faire quelque chose ». Puis, comme tu dis, c'est là que ça a commencé pour toi. Là, ça a été comme un déclic, là. Puis, tu sais, autant que pour elle que pour toi, c'est pas normal de se dire comme à mon amie, comme... C'est-tu elle qui est décédée? Mais ouais.
Non, puis malheureusement, c'est que c'est souvent ça, en fait. C'est que la femme décide qu'elle quitte ou la personne, en fait, la victime décide qu'elle quitte et l'abuseur ne l'accepte pas, alors il va tenter par tous les moyens possibles de la garder auprès de lui. Et ça l'arrive tellement de fois et... À ce moment-là, je pense qu'il s'était laissé. Donc, j'ai juste eu vraiment peur et c'est là que moi-même, j'ai rejoint SOS Violence Conjugale pour leur demander de m'aider à accompagner ma meilleure amie parce que ça a été mon wake-up call, comme on dit en québécois. Je savais que c'était le moment de la sortir de là et de lui faire réaliser l'ampleur de la situation dans laquelle elle était. Malheureusement, c'est assez difficile de parler à quelqu'un qui est en amour et de lui faire comprendre que ce n'est pas normal et que malgré le fait qu'il s'excuse toujours, ce ne soit pas excusable. Pour ce qui est de mon approche, Noémie le dit, il faut être rempli de douceur, de compréhension, d'ouverture d'esprit. Et là, ne vous méprenez pas, j'étais en rager derrière mon téléphone. Je devais faire des pep talks avec Noémie qui m'aidait à me calmer. Même chose avec ma conjointe parce que j'avais qu'une seule envie, c'était de me rendre à son lieu de travail et de briser ses pneus et ses dents aussi. Pour des raisons légales, ceci n'est pas nécessairement vrai. J'ai plutôt opté pour une approche question. Alors, pour aider mon amie Eliane a réalisé l'ampleur de la situation dans laquelle elle était prise. Je lui posais des questions et souvent je revirais la situation en mode « si c'était moi qui vivais ce genre d'événement, comment est-ce que tu le prendrais? » Et aussi des questions pour lui faire prendre conscience de ce qu'elle a ressenti et lui faire prendre conscience d'à quel point c'était ridicule de se laisser traiter comme ça parce que des fois tu vis la situation, mais de mettre des mots dessus, c'est là que ça te fait réaliser « Hey, ça n'a pas d'allure ce que je suis en train de dire, ça n'a pas d'allure ce que je suis en train d'excuser. » Par exemple, on revient à la violence sexuelle, en fait, il ne l'a jamais agressée, mais il lui a mis sur le dos le fait qu'elle ne lui faisait plus de fellation. Et quand je lui posais des questions, au fil de la discussion, j'ai vu dans ses yeux l'éclat changer, j'ai vu dans sa façon de me répondre à quel point elle prenait conscience qu'il n'y a personne dans la vie qui peut te forcer à te mettre à genoux pour donner une fellation ou un gars, du sexe oral. Il n'y a personne qui peut te forcer dans la vie à donner du sexe, même pas ton conjoint, même pas ton mari, même pas personne.
Ah non, je ne sais pas c'est quoi le terme exact, là, mais je vais appeler ça de la manipulation sexuelle. Là. C'est carrément de la manipulation. Puis si quelqu'un vous fait sentir mal, puis que après avoir manipulé, vous finissez par faire « ok, je vais le faire », mais ça, c'est un viol. Puis ça, moi, ça m'a pris vraiment du temps à comprendre. Je pense que ça fait quelques années que j'ai réalisé que dans une de mes relations, que ça, c'était arrivé, puis j'étais là « ok, ça, c'était pas normal ». C'est un viol. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Puis un viol ne commence pas à une pénétration. Le viol, ça commence à quand vous dites non, que ça vous tente pas, puis que la personne vous manipule. Ou justement, comme là, il vide le frigo, puis il dit comme... on fait plus l'amour, tu me fais jamais de fellation. Si à ce moment-là, elle s'était dit, bon, ben je vais en faire une parce que je veux rester dans le couple, je veux qu'il soit heureux. c'est un viol, parce qu'il l'a manipulé pour arriver à ses fins.
Complètement. Merci de cette intervention très pertinente. T'sais, là, j'essaie de skipper le plus de détails possible pour pas que ce soit possible pour les petits FBI qui nous écoutent, parce qu'on sait que vous êtes quelques-uns à découvrir de qui je parle et de quoi je parle. Mais en gros, tout ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que cette personne-là a été complètement, complètement, complètement manipulée à croire que tous les agissements de ce gars-là étaient adéquats, justifiables, mais ils ne l'étaient pas en aucun cas. Et oui, peut-être, tu peux être un partenaire difficile des fois, tu peux vivre des moments difficiles, tu peux être un peu plus demandant, un peu plus exigeant, mais jamais ton partenaire doit te le remettre dans le visage et t'imposer de faire des efforts que lui n'oserait jamais faire ou de t'imposer d'avoir des rapports sexuels alors que tu n'en as pas envie. Eliane a tenté plusieurs fois de partir, comme j'en ai fait mention, et à chaque fois, il arrivait avec le bon discours, avec les mots justes, avec la bonne manipulation pour la faire revenir dans la relation. Mais le soir qui a tout changé, c'était un soir où elle était allée le rejoindre en ville et ils rentraient ensemble. Et elle avait consommé de l'alcool et donc il lui mettait sur le dos le fait qu'elle était trop saoule pour ci, trop saoule pour ça, trop saoule pour blablabla. Ce qui peut être justifiable, excusable, tout dépendant des circonstances. Je veux dire, en tant que partenaire, tu peux le mentionner à quelqu'un alentour de toi si tu vois que la personne a trop consommé. Là, on était dans un contexte où Eliane se faisait ramener chez elle par son conjoint et qui se sont mis à s'engueuler assez violemment. Alors, elle a demandé à plusieurs reprises si elle pouvait sortir du véhicule pour appeler un taxi, appeler un Uber, demander à son amie qui était encore en ville de venir la chercher, venir chez moi. Toutes les options étaient bonnes rendues là. Elle voulait sortir du véhicule et il refusait. Il barrait les portes. Il conduisait violemment, rapidement. Et ça, c'est de la violence.
C'est aussi du kidnapping, là. T'as pas le droit de garder quelqu'un enfermé contre son gré. Fait que c'est non seulement c'est de la violence, mais c'est du kidnapping aussi. Comme Jess, elle a dit, ça arrive des fois, tu peux avoir trop bu, puis t'sais, ton partenaire peut trouver ça désagréable, mais c'est la façon dont c'est apporté. Là, je vais parler d'une... quelque chose qui m'est arrivé à moi une fois quand je consommais encore de l'alcool. Le partenaire que j'ai en ce moment, j'étais censée aller chez eux pour une telle heure, puis finalement, avec ma coloc, sa mère était là, on a décidé, elle avait apporté une bonne bouteille de vin, on a décidé de boire, puis une bouteille de vin a été une autre, puis finalement, à un moment donné, moi, je répondais plus à mon copain, puis j'ai fini par arriver sans conduire vraiment plus tard chez eux, alors que j'étais censée être là 3 heures plus tôt, complètement saoule. Puis il m'a jamais crié après, il m'a jamais fait sentir mal pour ce qui s'était passé, il m'a jamais rabaissé pour ce que j'avais fait. Il a attendu que je sois capable d'esprit pour avoir la conversation avec moi, il s'est occupé de moi, puis après ça, il m'a parlé doucement, puis il m'a expliqué pourquoi pour lui la situation, ça faisait pas son affaire, puis ça allait pas marcher, puis c'était pas ça qu'il recherchait dans la vie, tout en étant super doux. T'sais, ferme pour dire comme ça marche pas, ça, c'est pas un comportement qui a de l'allure, c'est pas respectueux envers moi, ma personne, mais t'sais, il y a toujours une façon d'apporter les choses, puis si vous êtes dans une relation amoureuse qui est saine, c'est de cette façon-là que ça va être apporté, pas justement comme que lui l'a fait en conduisant violemment, en la kidnappant littéralement, puis en lui criant plein d'insultes, puis en la rabaissant, là.
Non, exactement, puis je vais rebondir aussi sur le fait que si vous êtes dans la voiture de quelqu'un et que cette personne-là, pendant une querelle, un obstinage, une discussion un peu plus enflammée, décide d'ajuster sa conduite et de devenir plus violent, il freine sec, il roule vite, c'est... En fait, cette personne-là essaie de jouer avec votre sentiment de sécurité. C'est une forme de violence psychologique, en fait.
Effectivement, ouais.
Alors, en plus de séquestrer Eliane, ils conduisaient dangereusement, donc ils jouent avec leurs deux vies en même temps. En plus d'être moins attentifs sur la route, parce qu'ils portaient beaucoup d'attention sur la discussion enflammée qu'ils étaient en train d'avoir. Et je veux juste renchérir ici que cet homme ne parlait pas, il hurlait à plein poumon. Si j'avais eu l'autorisation, l'occasion, l'opportunité de vous faire entendre les audios, il y a pas d'autre conclusion possible que de se dire que ce gars-là était beaucoup trop violent verbalement. Et là, je vous ai rapporté quelques petites paroles qu'il lui a lancées, mais il y en a d'autres que je peux même pas rapporter sur le podcast. Donc, en plus de d'essayer de détruire son estime personnelle, de la faire passer pour une personne qu'elle n'était absolument pas, il lui criait à la tête avec une véhémence tellement forte. C'était littéralement rendu au point où j'avais peur pour la vie et la sécurité de mon ami quand elle m'envoyait ces vocals-là.
Ouais, c'était vraiment intense, les vocals.
Évidemment, étant donné qu'Eliane était toujours amoureuse de cet homme-là et qu'elle croyait qu'il y avait toujours une possibilité qu'ils reviennent à ce qu'ils avaient été au début, elle continuait de donner des efforts et elle refusait bien évidemment d'appeler la police contre lui. Donc, si vous vous demandez pourquoi toutes les fois où il a refusé de quitter son appartement, elle n'a pas appelé la police, ben c'est tout simplement parce qu'elle l'aimait et qu'elle croyait qu'il pouvait revenir à ce qu'il a déjà été, parce que c'est ça de la violence conjugale. Ça vend du rêve au début, après tu rentres dans le cauchemar et tout ce que tu veux, c'est retourner vers le rêve, même si au fond de toi, tu sais que c'est peut-être pas possible.
Des fois aussi, c'est... Tu sais, la personne peut vendre du rêve pendant 5 mois, autant que la personne peut vendre du rêve pendant 3 ans, puis après ça, elle change complètement, puis elle montre son vrai visage. Ou même, vous êtes ensemble pendant 5 ans, vous vous mariez, puis là, la personne, elle change. Tu sais, il y a pas de temps défini. Ça peut être n'importe quand, puis c'est ça qui rend ça encore plus difficile, c'est que les victimes de violences conjugales se disent... Tu sais, ils se rappellent le bon qui était dans cette personne-là, puis comment cette personne-là était bonne pour eux ou elle, puis ils s'accrochent à ça.
C'est exactement ça. T'as dit les mots parfaits. C'est accroché à un souvenir qui ne pourrait jamais revenir. Et moi, en tant qu'amie, bien évidemment, ça me révoltait. Je le voyais qu'il ne faisait que lui donner des mensonges, des beaux mots, lui disait ce qu'elle voulait entendre, mais elle était en amour. Donc, tu ne peux pas perdre l'amour que tu ressens pour quelqu'un aussi rapidement que cette personne-là a tombé dans la violence conjugale. Je sais pas si ce que je dis fait du sens, mais elle a pris du temps pour bâtir leur amour. Je pense qu'ils ont été ensemble presque un an avant que ça commence à devenir violent. Donc elle se rappelait des 12 mois. Elle avait les souvenirs des belles choses qu'ils ont vécues, des belles expériences qu'ils ont faites ensemble. Alors elle s'accrochait à ça de toutes ses forces. Elle refusait en fait de se dire que la personne pour qui elle était tombée amoureuse, c'était la personne qui lui présentait à ce moment-là, tu sais.
Je trouve que dans des cas de violence conjugale comme ça, justement, ça me fait penser à l'épisode de la semaine passée. Eliane, elle, c'était tellement une bonne personne. Elle voulait pas voir juste le négatif de l'autre personne. Je sais pas si c'est clair qu'est-ce que je dis, mais comme dans l'épisode de la semaine passée, c'est tellement des bonnes personnes, ils veulent tellement le mieux pour les autres, puis ils veulent juste, tu sais, ils veulent voir le bon, puis se dire dans leur tête... Cette personne-là peut être bonne, cette personne-là peut changer parce que au fond d'elle-même, elle, c'est une bonne personne. Est-ce que c'est clair comment je le dis?
C'est tellement clair. En fait, Eliane, c'est le positivisme en une personne. Et comme tu dis, elle décidait de voir le beau en lui plutôt que de se focusser sur le laid. Mais moi, mon rôle en tant qu'amie, c'était de lui rappeler que le laid était là et qu'il existait.
Ça me fait penser, j'avais vu une quote, je me rappelle pas exactement c'est quoi la citation, c'était sur Instagram il y a comme 2-3 ans, mais ça disait de faire attention justement dans certaines relations parce que parfois on va projeter de nous-mêmes sur l'autre personne puis on va rester dans des situations qui ne sont pas bonnes pour nous parce que nous, on projette sur l'autre, on projette que ce soit, tu sais, comment qu'on est des bonnes personnes, généreuses, qu'on est là pour aider puis qu'on veut voir le côté positif. Fait que c'est ça, justement, de faire attention, de pas projeter, nous, notre bonne personne qui on est, sur l'autre, puis d'essayer de déceler le plus tôt possible, si on est capable, que la situation que vous êtes dedans ou la personne avec qui vous êtes, c'est peut-être pas le genre de chose qui est bonne pour vous, là.
100%, encore une fois, tellement bien dit. Il y a aussi un point que je trouve qui est intéressant, c'est que la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Alors, Eliane oubliait souvent des événements qui s'étaient passés ou des paroles qui avaient été dites parce qu'elle choisissait de se focusser sur ce qui était positif, sur ce qui était beau. Parce que oui, malgré le fait que 90% de la relation, c'était chicane, prise de tête, violence conjugale, il y avait un autre 10% et elle s'accrochait à ce 10%-là. Alors, une autre étape que j'ai faite de moi-même, c'est dans mes notes prendre des notes et de me rappeler des paroles difficiles qui ont été dites et des événements, ce qui faisait en sorte que lorsqu'il revenait vers elle en lui disant « je vais changer pour telle raison », je lui rappelais certains événements qui s'étaient passés en mode question toujours. Donc, est-ce que tu te rappelles, il t'avait dit la même chose il y a 2 mois, est-ce que ça l'a changé? Non. Donc, l'important, je pense, ce qui a fonctionné pour Eliane, c'était que je ne faisais jamais le constat pour elle. Je lui laissais le faire tout seul en lui posant des questions. Parce que moi, je me rappelais, moi, je gardais toutes les factures et je lui remettais dans le visage avec douceur, avec amour, avec bienveillance. Et ça lui donnait l'opportunité de porter le même genre de lunettes que ce que je portais au lieu de porter ces lunettes roses de femme amoureuse.
Je trouve ça excellent la façon que tu as géré avec la situation, comme on dit, on le rappelle, sans être une professionnelle. Puis je pense que les personnes qui sont victimes, il faut qu'ils fassent le chemin dans leur tête eux-mêmes. On aurait beau leur mettre toute la vérité en pleine face, l'imprimer, puis leur foutre d'en face, s'ils font pas eux-mêmes le parcours de réalisation qu'ils ont besoin de faire, ça va donner absolument rien. Fait que là, le fait que tu y allais en mode question pour qu'elle-même fasse justement ce chemin-là, pour le réaliser par elle-même, je pense que c'était vraiment la meilleure façon en tant qu'amie que tu pouvais la supporter dans ça.
Complètement. Puis tu sais, c'est un gros travail sur soi parce que en tant qu'amie, on devient protectrice. Surtout, moi, j'étais un signe de feu. Là, tasse-toi de là si tu fais de la peine à quelqu'un que j'aime. Donc, je devenais tout de suite dans ce mode-là protectrice. Alors, j'ai dû, tu sais, me gérer, poser des questions parce que, comme tu dis, il faut juste l'aider à ce qu'elle prenne conscience de. Et une des manières aussi qui a aidé, c'était de revirer la situation, donc de la mettre dans un contexte où c'était moi qui se faisais parler comme ça, où c'était moi qui vivais ce genre d'événement-là. Et donc, avec plusieurs petites méthodes comme ça, peu à peu, elle a commencé à comprendre qu'elle était victime de violence conjugale parce que la toute première fois où je lui ai affirmé ça, elle m'a dit que j'exagérais et que ce n'était pas si pire que ça. Mais j'avais entendu les audios et ça, c'est ce qu'elle a pris le temps d'enregistrer. Je veux dire, il y a probablement beaucoup de choses que je n'ai pas su, que je n'ai pas entendu. Et avec le peu que j'avais, j'étais capable d'en venir à cette conclusion-là. Alors, c'était important pour moi de ne pas lui rentrer dans le fond de la gorge, mais bien que ce soit elle qui fasse la réalisation. Donc, pour en revenir à la fatidique soirée où elle était séquestrée dans le véhicule de son conjoint, éventuellement, ils sont arrivés chez elle et à ce moment-là, elle a appelé une de nos amies qui est allée chez elle aussi, qui l'a accompagnée parce qu'elle ne voulait pas être seule. Donc ça aussi, c'est vraiment important. Si vous sentez que votre sécurité est en jeu, n'hésitez pas à contacter si vous n'êtes pas encore rendu à l'étape de contacter les services d'urgence. N'hésitez pas à contacter quelqu'un qui va pouvoir être témoin avec vous, qui va pouvoir vous aider. Et malheureusement, ben j'imagine que ça doit dissuader aussi l'abuseur de vous abuser s'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour corroborer les dires, parce qu'éventuellement, on s'entend que les abuseurs se protègent un peu. Une autre manière avec laquelle cet homme-là essayait de se protéger, il lui a fait signer une liste d'efforts à faire et c'était d'un seul côté. Donc, elle devait changer ci, devait changer ça, devait arrêter de faire ça et surtout, un élément que je trouve qui est très important, elle devait supprimer tous les enregistrements de lui dans son téléphone.
Il n'y a rien qui crie plus coupable que ce genre de comportement-là. Puis, tu sais, c'est normal de s'adapter quand on est en couple à l'autre personne. On va jamais sortir avec le sosie exact de qui on est. Mais c'est pas normal de devoir se changer complètement, de devoir changer toutes les facettes de notre personnalité pour l'autre. Si c'est ça que vous devez faire pour être avec quelqu'un, c'est sûrement parce que c'est pas la bonne personne pour vous.
Et c'était exactement ça qui était demandé dans la liste. Et je vais rappeler, c'était une liste à un côté. Dans un couple, sachez-le, c'est la plus grosse job que vous allez avoir de votre vie, c'est d'être en couple. Il faut travailler sur soi, il faut travailler sur le couple. Les deux doivent faire des efforts, et ça, c'est le mot-clé, les deux. Si votre partenaire vous fait ressentir que ce n'est que vous le problème, que vous qui devez changer, que vous qui avez des actions à prendre pour que la relation aille mieux, et qu'en plus de ça, cette personne-là refuse d'aller chercher de la thérapie avec vous, allez faire un tour sur le site de SOS Violence Conjugale. Je suis vraiment désolée, c'est un peu décousu, là, comme vous pouvez voir, habituellement, on suit un script, là, on suit plus des événements dans ma tête, et je dois faire le ménage en même temps de ce que je peux partager, ce que je ne peux pas partager. On va en revenir à la soirée fatidique où elle vient d'arriver chez elle, il y a son amie qui est là, et malheureusement, la prise de tête continue de s'envenimer, l'ex-conjoint continue de lui crier, par-dessus la tête et il refuse de quitter l'appartement encore une fois. Et là, je sais pas si c'était toutes les conversations qu'on a eues, je sais pas si c'était toutes les prises de conscience qu'elle a eues dans les dernières semaines ou que c'était juste qu'elle venait d'atteindre son quota de constamment se faire accuser d'être la mauvaise personne ou de se faire abandonner pour revenir, parce que ça aussi, c'est un élément important, je pense, là. Il y a le sentiment d'abandon. Donc, elle se sentait constamment comme un échec à cause de sa relation. Donc, il y a le petit enfant blessé à l'intérieur qui veut juste pas se faire rejeter, donc qui veut revenir. Et lui, il en profitait. J'imagine qu'il y a comme eu un tourbillon de tout ça qui a fait en sorte que le résultat a été qu'Eliane a téléphoné au service d'urgence. Et le service d'urgence a donc procédé à l'arrestation de son conjoint et il a été accusé de séquestration de voies de fait. Et là, malheureusement, je n'ai pas mes notes devant moi, je n'ai pas mon téléphone non plus pour lui demander, mais il y avait un autre chef d'accusation qui a été porté contre lui. Et ça, c'est quelque chose que je peux dire. Les policiers n'ont pas attendu une seule seconde, ils sont venus, ils ont mis le conjoint en état d'arrestation et les procédures judiciaires ont été enclenchées par la suite. Mon amie Eliane a été accompagnée par le CAVAC, elle a été accompagnée par SOS Violence Conjugale, je pense même qu'elle a été accompagnée par l'IVAC. Elle a malheureusement appris plusieurs jours après que, comme plusieurs abuseurs vont faire, son ex-conjoint a répondu au chef d'accusation en portant plainte contre elle, donc en l'accusant d'être l'élément problématique dans la relation et pour ensuite procéder à démentir tout ce qui a été affirmé, tout ce qui a été enregistré, tout ce qui a été rapporté aux policiers. Il l'a démenti. Et malheureusement, le résultat judiciaire, on l'a eu il y a quelques semaines. Mon amie Eliane s'est fait annoncer que, étant donné que c'est beaucoup trop difficile de démontrer la violence psychologique dont elle a été victime et le fait que monsieur ne cesse de démentir et de dire que c'était elle la fautive, la justice ne pourra malheureusement pas l'accuser et le déclarer coupable. Elle s'est fait offrir une protection d'un an en échange d'accepter qu'il ne serait jamais accusé et déclaré coupable. C'était soit elle acceptait la protection d'un an judiciaire qui faisait en sorte que s'il s'approchait d'elle, il était arrêté, bris de condition, vous voyez le genre, ou elle continuait à se battre en justice et lorsqu'il aurait été déclaré non coupable, parce que c'est ce qu'il aurait été déclaré selon les personnes incluses dans le dossier, elle aurait perdu sa protection. Donc elle avait le choix soit de se battre pour prouver ce dont elle avait été victime en justice, ou d'accepter de ne pas se battre et d'avoir une protection contre cet homme-là.
C'est tellement triste, puis avant que certaines personnes se dépêchent à dire « elle aurait jamais dû accepter », il faut que vous réalisez à quel point, de un, c'est coûteux d'aller en cours, ça coûte extrêmement cher de se faire représenter par un avocat. Deuxièmement, ça prend beaucoup de temps, on travaille tout coûte cher en ce moment, là, les brocolis à 8$ à l'épicerie, là. Fait qu'on doit gagner notre vie, on doit travailler. Donc ça, c'est du temps qu'on enlève de notre quotidien pour... T'sais, c'est tellement compliqué, là. Juste avant d'aller au procès, il y a plein d'étapes à faire qu'on voit pas nécessairement quand on écoute CSI ou d'autres émissions dans ce genre-là, ou quand on écoute justement Canal D, que ça parle d'un meurtre en 30 minutes. On voit pas toutes les étapes que ça prend avant d'arriver au procès. Donc ça prend, comme j'ai dit, beaucoup d'argent puis de temps. Puis c'est mentalement tellement drainant, puis tout ça pour que finalement elle n'aille pas de protection. Puis je veux aussi dire, si lui, il a été capable de manipuler la justice, c'est pas parce que c'est la victime qui est facilement manipulable, parce que littéralement la justice aussi est manipulée par ses belles paroles d'une certaine façon.
Non, 100%, puis tu sais, comme tu dis, c'était coûteux mentalement, là, tu sais, je veux dire, elle devait toujours se replonger dans toute la violence qu'elle a vécue, dans surtout tout ce que ça le fait ressentir, parce qu'il faut juste établir ici que il a détruit une partie d'elle, il a volé une partie d'elle à tout jamais, et elle va toujours avoir une espèce de choc post-traumatique quand elle va retourner dans une relation, parce qu'il a pris la lumière qu'elle était, il l'a carrément éteinte, puis il s'en est réjoui.
Oui, sa vie va changer à tout jamais, il va toujours avoir un avant et un après. Ça veut pas dire qu'elle sera pas la fameuse Eliane qu'on connaît, toute pimpante, souriante, puis petit rayon de soleil. mais ça va l'avoir changé. C'est comme si on brise quelque chose, mettons, je vais prendre comme exemple un vase, puis on le recolle après. Oui, le vase va être encore là, ça va être encore un vase, mais on va encore voir toutes les craques qu'il y a dedans.
C'est tellement un bel exemple que tu viens de donner, puis c'est tellement vrai, parce que ne serait-ce que, tu te dis, oui, elle reste super enjouée, ensoleillée, mais ne serait-ce que, on en a parlé tout à l'heure, là, son chez-soi. Ben elle n'a pas pu rester chez elle. C'était son premier appartement de femme seule, indépendante. Elle en était tellement fière. Elle l'avait rénové au complet. On avait aidé à peinturer. Elle se sentait tellement bien dans son petit chez elle. Elle se sentait tellement accomplie. Et elle n'a pas eu le choix de quitter cet emplacement-là parce qu'elle ne s'y sentait plus en sécurité à cause du nombre de fois où lui s'est permis de venir sur son territoire, de se mettre en avant de sa porte, de l'attendre. Je veux dire, elle aurait vécu constamment dans la peur si elle était restée dans cet appartement-là. Fait que ne serait-ce que lui enlever cette partie d'indépendance-là qu'elle ne retrouvera jamais plus, il lui a enlevé ça carrément. Là. Donc oui, il lui a donné des cicatrices à tout jamais, niveau relationnel, mais aussi dans sa vie de tous les jours.
Ça, c'est la pire chose, comme on a dit, que tu peux faire à quelqu'un, c'est lui enlever justement ce sentiment de sécurité-là. Puis là, je veux pas dire que c'est la faute de la justice ou quoi que ce soit, parce que, tu sais, elle pouvait rien faire dans cette situation-là, entre guillemets, dans le sens que, tu sais, elle a pris le plaidoyer, puis selon eux, il y avait pas assez de preuves. Ils peuvent pas forcer l'abuseur à lui s'en aller, changer de ville. Puis même à ça, même si il forçait, il va quand même savoir où est-ce qu'elle, elle habite. Fait que c'est tellement plate que malgré tout, ça va toujours retomber sur la victime, que c'est elle qu'il faut qu'il prenne des mesures pour changer de place pour sa protection à elle. Je trouve ça tellement dommage. Puis il n'y a pas vraiment de solution à ça, tu sais. Je trouve ça vraiment triste. Surtout que c'était son premier appartement, puis elle était tellement contente, puis elle était tellement fière. C'est dégueulasse qu'il ait arraché ça.
Je suis complètement, complètement, complètement d'accord avec toi. En fait, tout ce qu'il lui a enlevé, je trouve ça dégueulasse. Moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un ait pu se permettre d'agir comme ça. Puis malheureusement, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ça fait quoi, une heure et demie qu'on enregistre là-dessus? Et je suis vraiment désolée à l'écoute si c'était complètement décousu et si au final le témoignage n'était pas aussi sensationnel que ce que vous auriez voulu. Mais c'est quand même une histoire qui m'est arrivée, qui est arrivée à une de mes meilleures amies. Je pense que c'est important de se rappeler que ça peut arriver à tout le monde. Je pense aussi ce qui a peut-être malheureusement dissuader Eliane de voir ce qu'elle vivait, ce qu'elle a dû se dire à plusieurs reprises, ça m'arrivera pas, c'est pas à moi, c'est ça se peut pas, tu sais.
Exactement, on pense tout le temps que ça arrive aux autres, puis que nous, non, ça nous arrivera pas. Puis, comme on le dit souvent, que ce soit aujourd'hui ou dans d'autres épisodes, la violence conjugale, ça n'a pas à être un coup de poing d'en face, une claque d'en face ou exceptionnel, je te roule dessus avec mon auto. Là, ce qu'on voit dans la situation d'aujourd'hui, c'était un gros début là, de relation de violence conjugale. Ça faisait un petit bout que c'était commencé, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas de preuves que ça aurait sûrement arrivé. Mais à mes yeux, si Eliane n'était pas partie à ce moment-là, là, ça aurait été quelque chose. T'sais, j'ai l'impression que la violence, elle aurait monté d'un cran, puis que là, ça aurait commencé à être justement les choses qu'on entend peut-être plus dans dans certains documentaires exceptionnels, si je peux dire ça comme ça, dans le sens que là, la violence, elle aurait été, comme je viens de dire, coup de poing d'en face, je te kick dessus, je te roule dessus avec mon auto, des trucs comme ça. Là, tu sais, elle a été bien accompagnée, puis au bon moment, si je peux dire ça, tu sais, je vais pas dire qu'il y a un bon moment de sortir de la relation violente, je trouve qu'elle est partie juste à temps. Ça, là, je trouve que là, dans la situation, on voit vraiment le début de c'est quoi une relation de violence conjugale, puis par après, je pense que ça aurait juste continué jusqu'à temps que ça devienne, malheureusement, un féminicide.
Je suis complètement d'accord et c'est ce que j'essayais de lui faire comprendre. Puis c'est sûr que des fois, elle me dit « t'exagères, tu vas trop loin ». Mais non, 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 plus on avançait dans le temps, plus l'agressivité avec laquelle il s'adressait à elle était intense. Plus il utilisait des mots comme des insultes que tu dirais même pas à ton pire ennemi, et plus même dans le débit de sa voix, il hurlait, tu sentais qu'il était hors de lui. Moi, elle m'envoyait ces audios-là et j'avais peur pour sa sécurité. Elle ne le voyait pas nécessairement parce qu'elle était des fois plus focussée, comme on l'a dit, sur le positif. Elle voyait le potentiel qu'ils avaient déjà exploré au début de leur relation, donc elles s'accrochaient à ça, comme on le dit, mais t'as totalement raison, là, ça continuait juste d'augmenter en intensité, puis je suis certaine que les prochaines étapes auraient été beaucoup plus violentes physiquement. Il l'a déjà été une fois, et malheureusement, pour un abuseur, quand ta victime ne cesse de revenir, ça crée encore plus une espèce de sentiment de puissance, de domination, parce qu'il se dit... ben, il revient toujours. Donc, il va continuer d'exagérer, puis il va continuer de tester les limites. Et malheureusement, à la violence conjugale, la limite, des fois, c'est comme tu dis, le féminicide. Fait que, oui, je veux pas être sensationnaliste puis exagérer. Je pense sincèrement que la vie de mon amie aurait pu être en danger si elle n'était pas sortie de cette relation-là.
Moi aussi, je suis 100% d'accord. Je suis absolument sûre qu'elle aurait pu l'être en danger. Puis elle l'a déjà été, en fait, parce qu'on se rappelle la fois qu'il l'a séquestrée dans l'auto puis qu'il conduisait super dangereusement. Il a mis sa vie à lui en danger, il a mis sa vie à elle en danger, puis il a mis la vie des autres personnes aussi qui marchent sur le trottoir ou qui conduisent aussi sur la rue en danger. Et voilà, mic drop, c'est ça que je voulais dire.
Ben justement, bon moment pour drop the mic, parce que ben je pense que malgré le fait, je l'ai dit, je m'excuse, l'épisode était un peu plus décousu, là, c'était vraiment en mode de conversation, et il y a plusieurs détails que je ne pouvais pas partager. Alors, c'est un petit témoignage, tout simplement pour rappeler que la violence conjugale a plusieurs visages. Il n'y a pas une ligne linéaire, il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas une méthode à suivre. Il faut être capable de reconnaître ne serait-ce que le moindre signe pour être capable d'intervenir. Et pour moi, ce qui a fonctionné pour l'intervention, c'était d'aider mon amie et de l'accompagner surtout dans sa prise de conscience. Je me suis carrément mise en arrière-plan. J'ai oublié le ressenti que j'avais envers cet homme-là pour me focusser sur l'amour que j'avais envers cette fille-là pour lui faire comprendre à quel point elle méritait mieux. Parce que c'est difficile de voir que tu mérites mieux que ce que tu as actuellement. Puis c'est difficile surtout de voir toutes nos forces, tous nos positifs, surtout quand la personne avec qui on est ne cesse de nous kicker en plein visage et de nous dire qu'on est donc une mauvaise personne, on est donc négatif. Et tu sais, moi, c'est quelque chose que je me suis dit à maintes et maintes reprises dans la relation, il ne la connaît pas. C'était quelqu'un qui la traitait comme si elle était une autre personne carrément, et tu disais projection. Moi, je pense que cette personne-là projetait son mal-être sur mon amie Eliane. Et malheureusement, Eliane est tellement une douce personne, bienveillante, qu'elle ne s'en est pas rendue compte.
Ben oui, surtout, tu sais, c'est sûr, c'est difficile de s'en rendre compte quand tu te fais manipuler autant, là, fait que c'est, ouais.
Ouais, c'est ça. C'était un peu à l'envers comme discussion, mais en espérant que ce format-là vous a plus malgré tout, en espérant que même si ce n'était pas une histoire extravagante ou qui était bien bâtie, vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir nous lâcher un commentaire dans la description sur Instagram, de nous envoyer un DM, de nous laisser une note, peu importe, juste d'interagir avec nous. Un grand merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode-là. Et on le rappelle, en finalité, tous les liens pour vous accompagner sont dans la description. Si vous avez besoin de nous offrir un témoignage, si vous avez besoin de ventiler, si vous avez besoin de parler, si vous pensez connaître quelqu'un qui est dans cette situation-là, n'attendez pas. Allez consulter les liens qu'on a laissés dans la description. Venez nous parler. Allez parler à un professionnel. Juste ne laissez pas ça arriver jusqu'à la finalité malheureuse qui arrive beaucoup trop souvent.
On est là pour vous. Puis quand ça dépasse nos capacités, on vous redirige vers les professionnels. Puis nos DM sont toujours ouverts.
Toujours, toujours, toujours. Et on rappelle en fin d'épisode que malgré le fait qu'il n'y a pas de manière universelle pour instaurer un climat de violence conjugale, il n'y en a pas une non plus pour aider une victime de violence conjugale. Mais, si vous avez besoin d'outils, ils sont là. S'il vous plaît, consultez-les. Tout le monde à l'écoute. Et tous leurs amis et toute leur famille méritent mieux que de se faire détruire par quelqu'un qui ne les aime au final pas.
Je trouve vraiment que c'était des beaux mots pour clore l'épisode d'aujourd'hui. Merci Jess de ton témoignage. Merci Eliane aussi de nous avoir donné l'autorisation de parler de son témoignage à elle, de ce qu'elle a vécu. Puis c'est ça, je pense qu'on va clore l'épisode de cette façon-là, puis se diriger vers le teaser pour la semaine prochaine.
Ok, yes! C'est un petit merci tout spécial à vous d'avoir été là pour l'épisode beaucoup, beaucoup plus différent que ce qu'on fait d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour un format qui, je pense, vous plaît pas mal.
Oui, les épisodes Zodiac!
Quel signe on présente, non?
Le Verseau, puis je m'excuse, au dernier épisode, j'avais dit on entre dans la saison du poisson, et c'était faux. On était dans la saison du Verseau, c'est juste que j'étais trop excitée parce que le poisson, c'est mon signe, puis j'ai été trop vite.
Bouh! Non, c'est pas vrai. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode Zodiac spécial Verseau. Merci encore d'avoir été là pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à...
Créer mes cocktails.
Cheers, guys!
Chin, chin!